Chroniques du vivant par Corinne et André.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour André. Aujourd'hui, nous allons recevoir Wolfgang Kramer, qui est l'auteur principal du 6e rapport d'évaluation du GIEC en 2023, qui est directeur de recherche au CNRS et membre du comité stratégique du MEDEC, qui est un réseau indépendant d'experts scientifiques dédié au changement climatique dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, nous vivons la COP30. Alors, il y aurait peut-être un petit peu des choses à dire avant de démarrer, à savoir qu'on entend beaucoup parler de la hausse des énergies renouvelables qui dépasserait à l'heure actuelle les énergies fossiles. Et en fait, la question qui se pose, ne serait-ce pas plutôt de diminuer, de réduire l'extraction des énergies fossiles au lieu d'augmenter simplement les énergies renouvelables? Parce que pendant qu'on augmente les énergies renouvelables, parallèlement, le business du pétrole continue toujours. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bonjour et merci pour l'invitation. D'abord, par rapport à la COP30, il faut dire quelque chose de plus général parce que on est qu'au début, effectivement, des négociations, donc on ne sait pas encore où cela va nous amener. Et il y a aussi besoin de souligner que ces conférences sont les seules opportunités pour les dirigeants à négocier entre les pays, à discuter entre les pays sur les objectifs de la Convention cadre sur le climat et plus précisément par rapport à l'accord de Paris de 2015. Donc, même si on trouve toujours insatisfaisant les résultats des COP, c'est assez important qu'ils aient lieu et que un peu visible pour tout le monde et tous les médias, il y a un dialogue qui existe. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à la COP30, c'est que les attentes sont particulièrement élevées cette année parce que le Brésil, qui est hôte de la COP, a annoncé qu'ils veulent vraiment faire des progrès significatifs, ce qui fait une sacrée différence par rapport aux deux dernières COP qui étaient dans les pays, dans un pays vraiment producteur du pétrole, et dans les deux cas, dans les pays où la société civile n'a pas vraiment pu participer à aux discussions. Donc, les premières indications sont plutôt un peu encourageantes par rapport à la COP30 à Belém. Mmh. Mais sur les questions concrètes par rapport aux énergies renouvelables, c'est tout à fait vrai. On n'est pas du tout dans les clous d'une baisse réelle des émissions de gaz à effet de serre si tout ce qu'on fait c'est engager d'autres formes d'énergie et si on ne réduit pas d'une façon brusque et significative et importante des émissions de gaz à effet de serre sortant de l'énergie fossile, hein. Et ça c'est on le sait malheureusement un peu en avance qu'on va peut-être pas voir les progrès qu'il nous faudrait au niveau de cette baisse des émissions de gaz à effet de serre d'énergie fossile, parce que même les pays engagés positivement, au moins avec leurs mots, comme la France, comme d'autres pays en Europe, n'envisagent pas vraiment, réellement faire quelque chose au niveau des énergies fossiles.
C'est regrettable. Il y a encore pas mal d'extractions et de forages pétroliers, je veux dire, au large de la Guyane aussi. Il y a un double discours un petit peu en même temps. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Quand Lula, c'est très bien, hein, c'est très, très chouette les positions et les discours qu'il y a, mais il y a un décalage après avec les intérêts économiques des pays qui continuent quand même à œuvrer dans ce sens, alors que vraiment... il faudrait rétro-pédaler, quoi, à fond, quoi.
Ah oui, il faut. Effectivement, je veux dire, il y a vraiment une nécessité de répéter de nouveau, à souligner que des nouvelles forages, des nouvelles gazoducs ou oléoducs à travers des continents, comme on le voit en Afrique, il n'y a aucune justification climatique, morale, éthique pour faire ces projets-là, et c'est regrettable qu'on sait déjà que la COP 30 ne va pas vraiment s'exprimer sur ces projets-là, parce que les intérêts des industries exploitant ces ressources-là sont trop fortes et s'imposent sur la prise de position d'un grand nombre des gouvernements. C'est très, très regrettable.
Oui, et ça pose le problème, Wolfgang, de qui parle au nom de la science et la crédibilité des scientifiques. Là, elle va être sérieusement mise en doute pendant la COP 30, je suppose.
Oui, ça c'est un peu la nouvelle tendance, malheureusement, principalement sortant des États-Unis, mais avec des importantes répercussions aussi en Europe, que maintenant, comme il n'y a plus de moyens de mettre en cause les résultats scientifiques présentés depuis bientôt 40 ans par rapport à la relation entre les émissions de gaz à effet de serre, le sortant des énergies fossiles et le changement climatique. Comme on ne peut plus mettre en cause ces relations, on met en cause la crédibilité des scientifiques eux-mêmes. On essaye les accuser de toutes sortes de regards
influence,
et tout cela. Et c'est effectivement c'est une stratégie très banale. Et chaque personne qui a un minimum de compréhension de comment ça marche un établissement scientifique public va savoir que c'est la propagande. Mais malheureusement, il y a une partie de la population qui tombe dans ce piège et qui croit vraiment que on peut s'opposer à la physique ou à des chiffrages faits d'une façon transparente par les scientifiques. Et la seule réponse que nous avons, c'est effectivement continuer à insister sur la façon comment nous travaillons. Et encore une fois, ça veut dire on travaille en toute transparence. On ne publie jamais un résultat sans expliquer en détail comment on a obtenu ce résultat. Donc chacun qui souhaite mettre en cause ce résultat est bien invité à nous montrer où on a fait des erreurs, et s'il y a des erreurs, on les corrige, mais c'est assez rare qu'on fait des erreurs. Et ensuite, on met en cause le financement public pour la recherche publique, et ça, c'est effectivement aussi une stratégie pour faire gagner seulement des intérêts particuliers des investisseurs dans les énergies fossiles,
oui,
et ce n'est pas dans l'intérêt de la population en sens large d'aller dans cette direction aussi. Nous, on peut juste le dénoncer. On a très peu de possibilités de nous opposer autrement à ces tendances-là.
Et ça pose quand même le problème de la crédulité des gens qui écoutent toutes ces infos ou ces infox.
Oui, effectivement, le passage par les médias pour de nos résultats, c'est un passage très important, et on essaye le mieux possible d'expliquer comment on a obtenu les résultats. C'est pas toujours facile, parce qu'on peut pas trop simplifier non plus. Mais une partie des médias travaille très très bien avec nous et nous pose des questions difficiles et on essaie de répondre. Mais une autre partie des médias, effectivement, agrandissante, est juste en train de fake news, de passer des fake news et de faire semblant que les résultats scientifiques peuvent être une opinion, ce qui n'est absolument pas du tout le cas.
Et ça pose le problème de pourquoi les gens sont si crédules. Est-ce que derrière, les mécanismes psychologiques sont un peu étudiés, analysés ?
Il y a des travaux psychologiques, mais moi je trouve que c'est moins intéressant. Ce que je note, c'est que il y a la propagande et les instances publicitaires qui manipulent l'information d'une façon que de semer le doute, de faire croire aux gens que les lois physiques ne sont pas des lois et que des statistiques traçables ne sont pas des statistiques. C'est pas un problème de psychologie, mais c'est un problème où la psychologie est abusée par l'industrie publicitaire pour faire passer des informations qui sont tout simplement fausses, mais les gens sont tellement bombardés par les fausses informations qu'un certain nombre parmi eux commencent à y croire.
Et quelque part, ça pousse à l'inaction aussi. C'est ça qui est dangereux, c'est que ça fait un peu obstruction à toutes les données de la science, quoi, au savoir réel. Et bon, en fait...
Je pense qu'il y a une certaine partie de la population qui se dit, par exemple, si le gouvernement, d'un côté, explique qu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps, il faut construire des autoroutes, il faut élargir des aéroports, ils vont se dire, ces gens-là, ils vont probablement être intelligents, ils vont probablement arriver à nous protéger contre le changement climatique malgré la construction de ces autoroutes, de ces aéroports. Et là, c'est effectivement
une solution facile, quoi.
Échappatoire, on va dire. La désinformation aussi faite par le gouvernement, l'incohérence, elle est flagrante, mais elle n'est pas tout le temps bien observée par les populations. Et encore une fois, certains médias jouent sur cette incohérence et essayent la grandir.
Oui, c'est ça.
Les marchands de doute, comme on dit.
Et ça pose le problème de la géo-ingénierie.
Oui.
Avec les solutions.
Oui, avant qu'on parle de ça, je veux juste rappeler, semer le doute, par exemple, on l'a bien connu avec le tabac. Hein, c'est l'exemple clé. Pendant longtemps, l'industrie a eu un grand succès de mettre en cause les analyses scientifiques qui ont montré que le tabac est dangereux. Il a fallu un énorme travail de plusieurs décennies pour faire comprendre que le tabac est effectivement cancérogène. Et on voit exactement les mêmes mécanismes à l'heure actuelle en cours pour le climat.
Oui, oui.
Par rapport à la géo-ingénierie, c'est effectivement un groupe, un paquet de méthodes qui ont été proposées pour éviter les conséquences du changement climatique. Malgré l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et toutes ces méthodes-là doivent être étudiées, effectivement, parce qu'on souhaite, bien sûr, régler le problème du changement climatique, la crise de la biodiversité au plus vite possible. Mais il se trouve que la plupart de ces méthodes actuellement proposées posent des très, très grands problèmes et amène des risques qui sont non négligeables et dans la plupart des cas rendent impossible l'application de ces méthodes. Une méthode qui m'a intéressé les dernières années particulièrement, c'est l'idée, la proposition de distribuer des particules fines dans la stratosphère, dans la partie de l'atmosphère qui est plus élevée que 10 km. Et on a montré avec des calculs que si on distribue ces particules fines de soufre ou d'autres particules, ça va pouvoir baisser le rayonnement solaire un petit peu. Et donc, malgré l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça pourrait enlever un petit peu du réchauffement qu'on a observé suite aux augmentations des gaz à effet de serre. C'est Ça a l'air d'être une idée intéressante et contrairement à ce qu'on imagine tout de suite, c'est probablement même faisable. Il faut un certain nombre d'avions, il faut une certaine organisation pour le faire. Mais ce qui émerge de plus en plus, c'est que la seule façon de se faire, c'est d'établir un régime, disons, autoritaire pour la planète entière, pour garantir que ce système reste en place pendant des décennies, pendant peut-être un siècle, parce que sinon, si on n'a pas cette garantie, on ne peut pas exclure qu'un jour ou un autre, un gouvernement, ou suite à une crise économique ou un changement d'intérêt politique ou je ne sais pas quoi, peut arrêter sa contribution. Et au moment de l'arrêt de ce programme, on a tout le réchauffement de retour qu'on a évité pendant les années. Donc ça, c'est une de plusieurs raisons pourquoi il faut absolument pas du tout aller dans cette idée de la manipulation de la stratosphère.
Oui, et par rapport à ça, bon, on a parlé d'ensemencer les nuages avec du soufre ou alors de balancer des aérosols.
Des argents.
Ça pose quand même des gros enjeux, de retomber sur les sols aussi, à travers les pluies,
oui.
Et puis à travers la couche d'ozone pour ce qui est des aérosols. À une époque, on a interdit justement tous les aérosols, justement parce que le trou dans la couche d'ozone devenait de plus en plus grand. Alors bon, je ne sais pas tout ce que tu en penses, enfin moi je me pose beaucoup de questions là-dessus.
Oui, tout à fait, je voudrais un peu clarifier quand sème les nuages pour produire la pluie. Ça, c'est une autre technique qui n'est pas dans la stratosphère, mais plus bas dans l'atmosphère. Et c'est également problématique, mais ce n'est pas la même chose.
Oui.
C'est quelque chose qui est court terme, qui est probablement déjà en utilisation, et qui est surtout vu comme une méthode d'attaquer un pays, par exemple, en lui privant les pluies dans les zones arides. Mais ce que j'ai expliqué sur la stratosphère, c'est un peu autre chose. Mais tu as raison, ça peut avoir des impacts négatifs sur la couche d'ozone, et généralement on perturbe chimiquement, on perturbe une partie de ce système Terre pour toute la planète entière. On peut pas faire ça localisé non plus, c'est une fois qu'on se lance, on fait ça pour toute la planète d'une façon incontrôlable et d'une façon extrêmement dangereuse. Ce que je voudrais ajouter à ces problèmes, c'est que on ne sait pas par rapport au refroidissement qu'on obtient, où géographiquement ce refroidissement a lieu. Il est tout à fait possible que certaines régions ont beaucoup plus des températures beaucoup plus basses et d'autres pas baissées ou même réchauffées aussi. Et ça a à faire avec les mouvements rapides de toute notre atmosphère qui fait en sorte qu'on ne peut pas injecter quelque part des particules et s'attendre que tout le monde ait un refroidissement. Donc, autrement dit, il y aura des régions dans le monde qui bénéficient, entre guillemets, quand même de cette technologie-là, mais d'autres, pas du tout, ils vont voir leurs conditions de vie aggravées encore plus. Et comment on veut expliquer que, dommage, vous n'avez pas de pluie chez vous, vous avez des températures insupportables, mais chez nous, c'est bien mieux. Donc, la distribution géographique des effets de cette manipulation de la stratosphère est pas contrôlable ou peu contrôlable. Et ça, c'est une raison de plus pourquoi on ne veut pas aller dans ce sens-là. Tout ça, ça peut apparaître la science-fiction, mais je vous assure, il y a des programmes très, très précis en cours pour évaluer ces possibilités, parfois aussi financiers, par exemple, par le gouvernement britannique. Et on se dit que un jour, soit les les gouvernements de quelques pays très riches, comme la Chine ou peut-être l'Europe, vont se lancer, ou alors même quelques sponsors privés, comme Bill Gates ou d'autres, qui aussi étudient ces possibilités-là. Et je voudrais vraiment utiliser l'occasion aujourd'hui pour dire que il faut pas aller dans ce sens-là, et les scientifiques sont tout à fait prêts à aussi un rapport récent de l'Académie des sciences d'expliquer pourquoi c'est si dangereux.
Oui, et c'est totalement imprévisible, donc c'est quand même étonnant. Oui. Mais parce que les gens qui veulent faire ça, on voit leurs intérêts à court terme, je pense, à moyen terme.
Bien sûr, et parfois, en grande partie aussi l'industrie de nouveau des énergies fossiles qui s'intéresse à ces solutions parce qu'ils voient un marché. Et une fois que ça marche pour eux à court terme, ils pensent qu'ils peuvent vendre ça comme service au gouvernement. Ils leur disent que on va pas baisser la production du pétrole, mais on va vous baisser les températures, et ça coûte tant de milliards par an, mais vous avez un effet que vous pouvez montrer après.
Oui, c'est toujours dans un système pour alimenter le profit, quoi. Hein, Donc, c'est pas dans l'intérêt réellement de l'humanité, quoi.
Mais bon, il y a d'autres méthodes aussi qui sont proposées en géo-ingénierie. On parle beaucoup des glaciers en ce moment et d'options sur des choses à faire au niveau des glaciers.
Oui, il y a d'autres et il ne faut pas les mélanger parce que chacune a un peu des enjeux d'autres. Par exemple, une qui a été proposée, c'est de mettre du fer ou d'autres métaux dans les écosystèmes marins pour leur inciter à augmenter leur production biologique. Et par cela, c'est l'idée absorber plus de CO2 par l'océan et le stocker long terme. On sait, aura des conséquences dévastateurs pour tout l'écosystème marin et toute la production de nourriture aussi en mer. Il y a très peu des chercheurs qui ont pu voir quelque chose de positif avec cela. Par contre, la communauté des experts en écologie marine disent bien que il faut absolument pas aller dans ce sens-là. Cela nous amène peut-être vers les perspectives plutôt positives, et c'est la question: est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent au-delà de la baisse des émissions elles-mêmes, nous aider à stabiliser le climat? Il y a un paquet de solutions qui s'appellent des solutions fondées sur la nature.
Oui. En espérant qu'il restera assez de nature, Wolfgang.
Pardon?
En espérant qu'il restera assez de nature pour...
Oui, effectivement, c'est la première partie de toute discussion sur les solutions fondées sur la nature. Oui. C'est que la nature, les écosystèmes,
ne pas détruire tout.
Il faut qu'ils soient capables de fonctionner, de rester résilientes par rapport au changement climatique inéluctable et à la diversité des organismes là-dedans. Ça, c'est le principe de base pour un fonctionnement. Mais après, on peut s'interroger quelles sont ces solutions-là. Et une solution, si on parle de la mer, c'est effectivement de se rassurer qu'il y a une richesse des espèces et une absence de pollution qui permet aux organismes en mer et surtout dans le littoral à vivre bien et à absorber du CO2, du gaz carbonique qui leur est mis en disposition, entre guillemets. Et cela, aujourd'hui déjà, on a une absorption importante de la mer et des écosystèmes marins du gaz carbonique. Donc c'est une solution basée sur la nature, fondée sur la nature, qui est déjà en place et qu'il faut assurer qu'elle peut toujours fonctionner. Oui, dans les systèmes terrestres, c'est un peu pareil. Des forêts saines, des forêts intactes, des forêts riches en espèces, des forêts avec un sol qui fonctionne, avec multiples organismes dedans. Oui. Les forêts comme ça vont toujours absorber du gaz carbonique et le stocker très long terme. Et donc, là, toute projection des forêts naturelle ou gérée, mais protection des forêts et leur biodiversité peut être vue comme une solution fondée sur la nature, parce que ça nous donne aujourd'hui déjà un effet positif par rapport au changement climatique. Il y en a d'autres, et peut-être je mentionne juste une de plus, et c'est en agriculture, l'agroécologie. L'agroécologie, ça ne veut pas dire forcément seulement du bio, des protocoles très stricts. L'agroécologie, c'est un cahier des méthodes de travailler les systèmes agricoles qui vise à baisser les entrants utilisés, comme les pesticides, mais aussi comme les engrais chimiques, et surtout à stocker le plus possible du carbone dans le sol, et par cela stocker du carbone, mais aussi en assurer que les sols peuvent bien fonctionner d'une façon saine, avec une biodiversité riche pour la productivité agricole. Donc toute mesure agroécologique est une solution fondée sur la nature aussi pour le changement climatique.
On semble en être assez loin quand même à l'heure actuelle, avec la déforestation massive, les élevages industriels, enfin, ça ne participe pas vraiment à toutes ces solutions, malheureusement.
Tout à fait, mais je veux dire, le verre est peut-être moitié vide ou moitié plein. Oui. Il y a quand même une grande partie du secteur agricole qui comprend cela. C'est juste une minorité malheureusement puissante politiquement qui ne le comprend pas et qui essaie d'insister sur l'ancien modèle productiviste, mais quand même il y a une large reconnaissance parmi les agronomes et les agriculteurs qu'il faut aller vers ces méthodes, et je dirais aussi des consommateurs. De plus en plus, ils se rendent compte que d'acheter localement, c'est pas seulement quelque chose qui est bien pour l'économie locale, mais c'est aussi quelque chose qui est bien pour le climat et pour la biodiversité. Et moi, je crois, on connaît pas mal des personnes qui font cela et qui se rendent compte que c'est bien, même pour leur santé, mais surtout aussi pour la planète et pour la biodiversité.
Oui, en fait, il y a une instrumentalisation de la nature avec l'objectif de continuer encore et encore. C'est un peu ça.
Oui, mais j'aime pas trop le mot instrumentalisation, parce qu'effectivement, nous sommes en relation directe avec la nature. Nos actions comptent beaucoup pour l'état de la nature, et donc de faire bénéficier le fonctionnement des écosystèmes par une agriculture écologique et par une protection des forêts. On peut dire aussi c'est une instrumentalisation, mais c'est une instrumentalisation positive.
Oui, le problème, c'est pour continuer, quoi. C'est si on utilise tout ça pour continuer encore et encore, l'adaptation ou la réduction, elle est un peu loin, là, quand même.
Oui. Ce qu'il faut dire, d'abord, c'est que l'adaptation des systèmes agricoles, c'est beaucoup plus facile avec des systèmes divers et résilients et avec beaucoup de biodiversité. Hein. C'est un champ de maïs, c'est beaucoup plus difficile. En fait, la seule adaptation là, c'est d'ajouter de l'eau et des engrais. C'est pas une adaptation très efficace. Par contre, une culture de maraîchage ou une culture plus diverse avec une biodiversité dans les paysages est typiquement plus facile à adapter au changement climatique inéluctable. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que toute adaptation, à un moment, elle perd son sens si on ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre. C'est très important parce que à la vitesse actuelle avec laquelle nous augmentons le taux de CO2, de gaz carbonique dans l'atmosphère, ben on va dans une situation climatique où il sera après un moment plus possible de s'adapter.
Ben oui.
Oui, il y a cette idée aussi qu'on a le temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qu'on a le temps.
Oui, effectivement, on n'a pas le temps et on n'a pas besoin d'attendre tellement non plus, quoi. Il y a tant de solutions qui peuvent être implémentées aujourd'hui, direct, et avec une garantie de continuation de l'emploi et des activités agricoles. C'est pas que les agriculteurs peuvent plus travailler, c'est juste qu'ils peuvent plus travailler dans l'ancien modèle de productivité à tout prix. Si on, là aussi, le Green Deal de l'Europe, par exemple, il avait proposé des très bonnes solutions dans l'intérêt des agriculteurs qui maintenant sont été éliminées ou réduites pour le bénéfice de certains investisseurs dans certains secteurs agricoles, mais pas du tout dans la majorité des agriculteurs. Donc, on perd le temps et ça pour les intérêts d'une toute petite minorité.
Et on pourrait dire la même chose pour le tourisme. Dans l'Hérault, c'est un problème avec la mer qui grignote un petit peu.
Tout à fait. On n'a pas encore parlé du hausse du niveau de la mer. C'est pour moi un des facteurs du changement climatique les plus inquiétants parce que déjà on peut faire très peu de choses. On peut peut-être construire quelques digues, mais on est face depuis les derniers 20 ans à un doublement de la vitesse de l'augmentation du niveau de la mer, de la hausse du niveau de la mer, et cela risque à s'accélérer encore plus au moment que la déstabilisation des glaces en Antarctique a vraiment lieu, ce que craignent certains chercheurs depuis un bon moment. Je le crains aussi, c'est pas encore certain, mais le risque est là. Et effectivement, le tourisme du littoral, il a très peu de possibilités à s'adapter à cela parce que effectivement, il va falloir abandonner des grandes parties de la côte. Et là, on voit ça de la façade atlantique et aussi en Méditerranée. Oui. On voit ça déjà dans le quotidien. Et pour se protéger entre cela, c'est effectivement peu d'adaptation possible et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et la plus importante pour la protection de ces secteurs économiques.
Et oui, sans compter la salinisation des cours d'eau avec la montée de la mer aussi. Hein. Et les digues ne sont pas non plus une vraie solution, quoi, parce que
non.
Voilà.
Une solution très courte termiste, voilà, très chère. On va être obligé de le faire dans certains cas pour une certaine période, mais encore une fois, si au même temps on continue à émettre du gaz carbonique tel qu'on le fait, il y a peu d'espoir que ces digues vont tenir très longtemps.
Oui. Surtout si les gens viennent en avion pour aller au bord de la mer.
Oui, c'est la discussion que j'avais il y a quelques années avec le maire de d'Agde sur un panel qui lui croyait vraiment la belle histoire qu'on lui a racontée, c'est que l'aéroport d'Agde sera décarbonisé et tous les avions qui lui amènent des touristes anglais vont voler en hydrogène. Ce sont des fausses informations qu'on raconte aux élus. C'est très très dommage parce que c'est un des exemples de la désinformation qu'on a évoqué au début. C'est totalement ridicule à s'imaginer que dans les décennies qui viennent, le tourisme avec les avions sera décarboné. C'est juste pas possible, ça va pas avoir lieu, peut-être dans 50 ans, mais pas dans 20 ans et pas dans 30 ans. Et donc, de faire autre chose que compter sur le tourisme basé sur le ferroviaire complètement décarboné, c'est juste absurde. Ça n'a aucun sens.
D'accord.
Les scientifiques sont vécus comme des menaces, quoi.
Oui, mais comment faire, enfin, quand on réfléchit un petit peu à tout ce qu'on a dit, là, comment on peut arriver à je ne sais pas comment l'expliquer, comment on peut arriver à ce que toutes les autorités politiques prennent en main vraiment le sujet pour le mettre en pratique. Par exemple, c'est vrai que l'agroécologie, ça fait des années qu'on en parle. Pourquoi on ne s'en empare pas? Pourquoi dans les lycées agricoles, ce n'est pas enseigné? Pourquoi on ne met pas en pratique? Pourquoi dans les océans, on s'oriente vers l'extraction minière au lieu d'avoir des politiques vertueuses? Enfin, c'est vrai que tout est fait à l'envers. C'est inquiétant.
Ça dépend à l'envers pour qui.
Ah oui, mais voilà, je ne parle pas des lobbies.
Tout est là.
Et de la finance. Mais...
Et oui.
Mais je crois qu'il faut différencier un peu. Par exemple, de ce que j'entends, je ne connais pas toutes les lycées agricoles, mais de ce que j'entends, il y a une très grande volonté, à la fois par les jeunes agriculteurs en France et ailleurs, et aussi dans les lycées, dans les enseignants, lycée agricole, de sérieusement discuter et présenter et enseigner les méthodes d'agroécologie. Je crois là, c'est une des parties de notre société où il y a vraiment un espoir, parce que il faut encourager surtout plutôt que dénoncer ceux qui n'ont pas encore compris. Ce qui est plus difficile, c'est là où on est face aux très grandes industries. Et parce que effectivement au niveau le gaz et pétrole et aussi l'exploitation des fonds marins et tout ça, on est face aux très grands investisseurs qui pensent qu'ils sont hors de la loi, qui contrôlent d'une façon des politiques menées par nos gouvernements. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que c'est important que tant qu'on insiste qu'on a des structures démocratiques, que pendant les élections, on vote pour les politiques qui sont prêtes à limiter l'impact de ces grandes industries. Au niveau régional, local, et surtout au secteur agricole, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'engagement positif qu'il faut tout simplement encourager.
Très bien.
Bon, donc, restons positifs.
Oui, restons positifs. On n'a pas d'autre choix et ça va mieux pour notre santé mentale aussi de rester positif.
Ah oui, de toute façon, il faut essayer de... C'est un peu un combat de David contre Goliath, comme on dit, mais voilà, il faut voir l'issue. Hein. L'issue et s'accrocher aux bonnes solutions.
Oui, en fait... J'entends dire des gens que j'ai considéré à être complètement déprimé comme une solution, mais j'ai réalisé que ça ne change rien non plus. Non. Donc, c'est pas une option qui fonctionne.
D'accord. Bon. Est-ce que tu veux dire une dernière chose, Wolfgang, avant qu'on clôture l'émission?
Oui, on a un mot qui a été évoqué plusieurs fois les derniers temps, c'est qu'est-ce que c'est l'obstruction climatique.
Oui.
Et effectivement, il y a même une littérature, des analyses qui nous montrent le degré par lequel les grandes industries ont systématiquement même payé des bureaux des études, des spécialistes, pour effectivement avoir des programmes d'obstruction climatique, donc autrement dit des programmes de désinformation, de développement de fausses informations de toutes sortes, pour au moins semer le doute, comme on avait évoqué au début, et aussi pour autrement impacter les politiques. Donc il ne faut pas croire que c'est juste un peu des petites erreurs à gauche et à droite, c'est malheureusement des engagements fort et structuré, organisé, et de plus en plus, ils rentrent, par exemple, le network, le réseau Atlas, c'est un réseau des on dirait des laboratoires de recherche et d'autres établissements internationaux avec le seul objectif de arrêter la transformation écologique. Il faut s'opposer à ça, il faut dénoncer cette obstruction parce que elle risque à accélérer encore la destruction de la planète. Donc, si vous entendez parler de l'obstruction climatique, je vous suggère à vous intéresser qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a pas mal de thèmes écrits sur ça et c'est vraiment là une des grandes menaces pour les politiques d'une meilleure gestion de la planète. Et voilà.
Donc, il faut rester vigilant et critique.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui... Oui, pour semer le doute et qui se... sous des aspects extrêmement scientifiques aussi. Et donc, c'est problématique.
Et peut-être une source d'information aussi que je veux souligner, c'est quand même toujours le Haut Conseil pour le Climat en France qui est toujours une instance scientifiquement indépendante qui récemment en octobre a publié son rapport pour l'année 2025 qui est extrêmement lisible et qui montre très clairement sur lesquels domaines nous sommes en route vers une meilleure politique dans laquelle nous ne le sommes pas. Dénonçant surtout les transports où on est toujours dans une situation très très critique et c'est très important que tout le monde lise ces rapports, encore une fois très très lisibles et facilement à trouver sur l'internet parce que ça nous place bien face aux informations réelles et transparentes par rapport à la politique pour le climat en France.
Donc, au Conseil pour le climat, on va lire ça sur Internet. C'est d'accès libre.
Mais en tout cas, un grand merci, Wolfgang. C'était très
intéressant. Merci à vous pour l'invitation.
Merci. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Chronique du vivant par Corinne et André.